Force Info. Les informés. Bérangère Bonte.
Bonsoir à tous. La flamme olympique brûle au Stade Vélodrome de Marseille et c'est finalement Didier Drogba qui a allumé le chaudron. Beaucoup d'images magnifiques toute la journée, mais pas de Zidane. Et déjà un début de polémique autour du choix du rappeur Jules pour allumer le chaudron hier. Ça a gâché la fête, dit carrément le président de la région PACA, Renaud Muselier. Au menu également des informés, une grande page consacrée à la campagne des européennes en ce 9 mai, journée de l'Europe. Gabriel Attal accuse le RN de vouloir sortir de l'UE. Jordan Bardella lui accuse le gouvernement de vouloir éteindre la voix de la France. État des lieux à un mois pile du scrutin en France, mais aussi dans toute l'Europe, avec une poussée notamment annoncée des nationalistes. Et l'expertise ce soir de Sylvain Kahn, enseignant-chercheur à Sciences Po. Et puis, impossible de d'y échapper, Taylor Swift, premier des 4 concerts parisiens pour la chanteuse américaine de country, qui, dit-on, booste l'économie des lieux où elle se produit et qui fait aussi trembler Donald Trump. On en parle avec Elisabeth Pinault, correspondante à l'Élysée, et Matignon pour Reuters, Yannick Halimi, éditorialiste politique, Benjamin Morel, politologue et maître de conférence en droit public à Paris 2, Panthéon Assas. Bonsoir et bienvenue à tous.
Merci.
Bonsoir.
Et on accueille tout de suite Sylvain Kahn, qui sera là pour notre partie européenne, mais qui est un dingue de sport, disons-le, et de foot en ce jour aussi de match de l'OM. Bonsoir Sylvain Kahn.
Bonsoir.
Et vous êtes le bienvenu sur cette partie qui nous amène évidemment, comme hier, si ça continue, on va y prendre goût, hein, comme hier, on commence à Marseille. Nicolas Perronnet devant le Vélodrome pour France Info. C'est donc Didier Drogba qui a embrasé le chaudron et pas de Zidane, Nicolas.
Non, pas de surprise. Ça aurait été une grosse surprise, hein, Zinedine Zidane, ce soir.
Ce sera le nom qui manquera peut-être, hein, quand même.
Peut-être, c'est vrai. Peut-être que ce sera un nom qu'on entendra à nouveau le 26 juillet du côté de Paris. Mais c'est vrai que c'est peut-être la petite déception, s'il faut en chercher une, du côté des Marseillais, de ne pas avoir vu Zinedine Zidane. Ils y ont cru, pour certains, hier sur le Vieux-Port. Aujourd'hui, il n'y avait pas de mystère et pas de surprise attendue, hein, parce qu'on savait depuis quelques jours maintenant que c'est Didier Drogba effectivement qui allait avoir l'honneur d'allumer ce deuxième chaudron olympique à Marseille après Jules hier sur le Vieux-Port. Didier Drogba qui l'a fait devant le Vélodrome, un stade dans lequel il a joué pendant une saison, hein, c'est pas beaucoup, mais ça a été suffisant pour se forger sa légende ici, pour marquer l'histoire du club, hein. Didier Drogba, c'est 32 buts en 55 matchs avec l'OM, une qualification en finale de la Coupe de l'UEFA et un statut donc d'icône du club de l'OM qui s'est forgé grâce à ça. C'était pas le seul, parce qu'on a eu une fin de relais olympique aujourd'hui du côté du Vélodrome qui était quasiment 100% OM, avec Jean-Pierre Papin, avec Valentin Rongier, avec Éric Dimeco, avec Louisa Nessib et Jenny Perret également pour représenter le football féminin marseillais. Et on a eu quand même une petite surprise, même si elle avait été éventée, hein, également ces dernières heures, c'est de revoir Soprano, mais sur le toit du Vélodrome. Hein, Soprano qui a donné le grand concert de clôture de la journée d'hier avec Alonso, hein, des représentants comme Jules, même s'ils n'ont pas le même âge, pas la même génération de la scène hip-hop marseillaise, et bien Soprano s'est hissé au sommet du Vélodrome. Ce sera aussi l'une des images que l'on gardera de cette journée.
Image très impressionnante. Très belle, oui.
Ouais, très belle, avec évidemment l'allumage du chaudron, et on retiendra aussi celle de ce matin, hein, parce qu'il y a eu un vrai trait d'union, on va dire, olympique de Marseille toute la journée, puisque c'est Basile Boli, et là aussi c'était une sacrée image qui a été le premier porteur de la journée au sommet de Notre-Dame-de-la-Garde, seul au sommet de la basilique. Voilà, donc l'OM pour démarrer la journée, l'OM pour la terminer, et on peut dire, pour résumer, hein, que Marseille a réussi quand même son accueil de la flamme, que Marseille a mis la barre assez haut, une flamme olympique qui va prendre dès demain la direction du Var.
Avec 10 000 escales, 10 000 communes, 10 000 relayeurs plutôt, qui vont être sollicités jusqu'à l'ouverture des Jeux. Merci beaucoup Nicolas Perronnet. Succès pour Marseille autour de la table, et Sylvain Kahn est le bienvenu. C'est quasi un sans faute pour vous. Allez, Yannick Halimi.
Oh bah moi je trouve, oui. En plus, Marseille a remporté, si je puis dire, pardon, la compétition de ville face place, par exemple, à La Rochelle, hein, qui n'est pas rien. Il y avait aussi, je crois, le Finistère, enfin, une partie de la Bretagne qui s'était aussi proposée. Donc, quand on sait quand même que Marseille, c'est une ville meurtrie, peut-être plus meurtrie que La Rochelle ou que certaines villes du Finistère, je trouve que c'est une phase solaire qu'elle a montrée dans tous les sens du terme, une face positive, et malgré les critiques autour, ou la polémique même autour de Yule, je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle. Voilà, moi je...
Jules Darmo, ici autour de la table, tout le monde en, qui en pense quoi? Allez, Sylvain Kahn, je commence par vous.
Je pense que la polémique n'est pas, comment dire, c'est une polémique d'arrière-garde, voilà.
Non, mais il a sa place, Jules, pour allumer le chaudron, c'est ça la question?
Ah oui, oui, bien sûr. Donc, voilà, il n'y a pas de... Ça, on avait déjà eu le même type de polémique au moment du bicentenaire de la Révolution française et du défilé sur les Champs-Élysées. Bon, il y a une permanence, on va dire, de ce type de combat culturel.
Il faut rappeler
En 1989.
Oui.
Ben, en 1989, c'était... son nom m'échappe à l'instant, le grand designer.
Good.
C'était Good, voilà, merci. Jean-Paul. Merci Yannick Halimi. C'était Good qui avait été le grand ordonnateur du défilé pour le bicentenaire de la Révolution française. Par ailleurs, c'était Barbara Hendricks qui avait chanté la Marseillaise, une très grande chanteuse d'opéra, certes, mais américaine, et qui plus est africaine. Donc, il y a eu à l'époque... des voix traditionnelles ou conservatrices pour dire que c'était pas une manière de célébrer comme il convenait le bicentenaire de la Révolution française.
C'était pas le choix de Barbara Hendricks en soi, c'était l'ensemble, c'est ça qui choquait.
Bah c'était le choix Hendricks plus Good.
D'accord.
Qui avait fait un défilé très coloré, très pop.
Benjamin Morel, sur le choix de Jules.
Oui, alors je suis plus dubitatif, mais c'est une polémique ancienne sur Good, où là, en effet, la Révolution était quasiment, en fait, masquée de ce défilé. Là, c'est pas le cas. Là, on a affaire à autre chose. On a affaire à une mobilisation sociale autour de cet événement-là. Et dans ce cadre-là, en effet, que ce soit Jules, que ce soit Soprano, que ce soit Nakamura, etc., lors des différents moments de cet événement, ça permet d'embarquer la société. Or, et quelques polémiques existent sur le fait que c'est pas tous des sportifs, l'objectif, c'est pas que ce soit un événement pour les sportifs. C'est que ce soit un événement national autour du sport, même international autour du sport. Dans ce cadre-là, bah, le fait qu'un rappeur participe à la chose m'apparaît un peu plus normal, surtout à Marseille, où là, vous embarquez également une partie de la société marseillaise.
Ça pose la question du sens du mot olympisme. Renaud Muselier, le président de la région PACA, qui était donc l'invité politique de France Info tout à l'heure à 18h20, et le choix de Jules, le rappeur, ne lui a pas vraiment plu, pour dire les choses simplement.
C'est un peu gâché la fête, en fait, cette histoire. Parce que Jules a largement sa place pour porter la flamme. C'est assez facile. Il rend hommage à la zone. Il rend pas hommage aux Jeux Olympiques. Il rend pas hommage à la France. Un exceptionnel chanteur, mais c'est pas sa place.
Voilà, on aurait imaginé que le président de la région soit plein d'enthousiasme. Ça a le mérite d'être honnête.
Oui, bah c'est pas très étonnant, ouais. C'est très français ça, hein. Premières images, très belles images, première polémique, voilà, il y en aura plein d'autres. Ça montre aussi, je suis d'accord avec vous, qu'on veut faire de ces Jeux des Jeux populaires, bien au-delà du sport. C'est aussi les Olympiades culturelles, il y a énormément d'événements qui sont attendus. Et puis c'est le début de cette espèce de remontada dans le cœur des Français, parce que les sondages montraient jusqu'à présent une hostilité, voire plutôt une indifférence de la part des Français. Et ça, ils l'ont observé déjà à Londres en 2012, l'arrivée de la flamme avait été le début de l'intérêt des Britanniques pour les Jeux Olympiques. Donc là, voilà, ça va être 400 communes maintenant, une flamme qui va passer partout, du viaduc de Millau en passant par le Mont-Saint-Michel et des grottes de Lascaux jusqu'à Paris le 26 juillet. Et voilà, ça avait été observé à Londres. La flamme va aider normalement à faire entrer l'olympisme via... Donc, pas seulement le sport, mais aussi la culture et la société civile. Enfin, je pense que les porteurs de flammes vont être très variés. Je pense que c'est la volonté des organisateurs d'aller bien au-delà du sport.
Il y a aussi sans doute une fracture générationnelle, me semble-t-il. Et quand on regarde sur les réseaux sociaux comment ça réagissait depuis hier, notamment autour de cette histoire de Jules. Et quand je parle de génération, il y a quelqu'un d'assez jeune au gouvernement qui s'appelle Gabriel Attal qui a tweeté, je ne sais pas si vous l'avez vu.
Si, on l'a vu, oui.
Voilà, le J, c'est le S.
Lui, il connaît Jules.
Voilà, on va le voir pour ceux qui nous suivent sur le canal 27. Yannick me regarde bizarre, mais vous avez le droit de...
Ça veut dire que vous savez ce que ça veut dire.
Le J, la lettre,
d'accord.
C'est le S.
Pardon?
Ça veut dire
Le J, c'est le S, ça veut dire c'est le sang, c'est la famille, quoi, en gros.
D'accord.
Et c'est voilà, on est raccord là avec Jules, mais c'est là où je dis il y a quelque chose de générationnel, non, Benjamin Morel?
Je sais pas, je crois que Jenny connaît beaucoup mieux Jules que moi. Pourtant, j'ai à peu près le même âge que Gabriel Attal.
Ah bon? Moi, je vous remercie. C'est vrai que je suis beaucoup plus âgée.
Non, tu connais bien mieux, j'ai dit.
Il faut peut-être juste rappeler quand même peut-être ce qui est sous-jacent à ces propos-là, au-delà de l'aspect générationnel.
Alors, auquel propos? À ceux de Renaud Muselier ou à ceux de Gabriel Attal?
De monsieur Muselier, oui. Et de, effectivement, la fracture peut-être, ou en tout cas la fissure, les différences et divergences qui peuvent être générationnelles. Il y a aussi quelque chose d'un tout petit peu plus concret qui fait polémique, c'est une chanson écrite et chantée il y a 10 ans, attention, par Jules, dans lesquelles il parle de viol. Elle est très violente, c'est du rap, il parle de viol. Ça peut gêner, il faut le reconnaître. Et en plus, dans le contexte actuel, deux, dans la vague d'olympisme qui est quand même fondée sur une sorte de paix, de tolérance, d'ouverture à l'autre, là, certains y voient un sexisme fondé sur de la violence qui peut être déplacé.
Quand on voit la marée humaine et le
mais c'est là que je terminerai.
Dans le Vieux-Port.
Pensons quand même que, un, c'est il y a 10 ans. Deux, que ça peut être du second degré, toutes choses égales par ailleurs, comme Michel Sardou, Les villes de grande solitude, il y a 30 ans. Donc, arrêtons d'écouter les peines à jouir, parce que de fait, comme vous le dites, Bérangère, il y a un grand élan, en tout cas marseillais et populaire. Et juste pour terminer, j'espère que tous les préalables, là, avant véritablement les JO au mois de juillet, ça va pas donner lieu, comme le Tour de France, pour attirer les spectateurs, à des polémiques à toutes les étapes. Mmh. Parce que ça va se transformer en spectacle politico-médiatique qui risque quand même de tuer, pour le coup, la flamme qui doit porter les sportifs et l'olympisme au mois de juillet, d'août et de septembre.
Il me semble que pour l'instant, c'est quand même la fête qui l'emporte.
Espérons-le.
On peut quand même l'observer, c'est quand même des très belles images. Voilà, il me semble que c'est quand même la fête qui l'emporte pour l'instant.
Assez clairement. Sylvain Kahn, juste pour clore cette page olympique, on ira tout à l'heure au stade Vélodrome, à Bergame, voilà, pour le match de l'OM. Mais sur cette partie olympique, vous avez savouré, vous?
Oui. Je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit sur le fait que ça va probablement, en tous les cas, on a plein d'indices qui en témoignent, comme à Londres, c'est-à-dire que à un moment donné, ça va devenir une grande fête. Il va y avoir un enthousiasme. La France est par ailleurs la première destination touristique du monde chaque année, donc ça va accentuer ça. Il y a des sites, il y a Lille, Paris, Marseille. Il y a même Tahiti, donc voilà, ça peut se transformer en permettant à sortir la société française de certaines, non pas de difficultés, mais de représentations qu'on est dans des difficultés. Ça pourrait y contribuer, ça sera juste le temps d'un été, mais c'est déjà ça.
À Londres, ce qui avait été mesuré, c'est donc une première ferveur au moment de l'arrivée de la flamme, puis la cérémonie d'ouverture avec le moment James Bond chez la reine d'Angleterre. Là, vraiment, ça avait vraiment marqué les esprits. Et puis, la première médaille britannique. Ça avait vraiment tout déclenché. Donc, il faut des médailles françaises.
Il en faut le premier jour, mais c'est prévu. Hein,
et c'est prévu. Le calendrier des épreuves. Top 5, c'est ce qu'on me disait encore cette semaine dans le ministère d'Amélie Oudéa-Castéra. On espère être dans les 5 premiers, c'est-à-dire environ 20 médailles d'or. Voilà le calcul.
Jeannie Galimi.
C'est aussi le calcul et le pari politique d'Emmanuel Macron qui était à Marseille hier et qui s'est exprimé hier, en tout cas qui a répondu à des questions de certains journalistes. Et là, pour Emmanuel Macron, on le sait que les Jeux Olympiques, ça doit être un point d'appui important pour une unité nationale. Il a encore appelé hier à l'unité nationale, mais c'était pas, entre guillemets, l'union nationale qu'un leader peut appeler au moment d'une guerre, que ce soit la guerre contre le Covid, la guerre au moment où l'Ukraine est arrivée, donc c'est-à-dire une sorte d'union nationale pour lutter contre le pire. Là, il en appelait à une union nationale pour le meilleur, ouais. C'est-à-dire en essayant de tabler sur tous les aspects positifs d'une France réunie, effectivement, pour gagner le plus de médailles possible.
Vous vous souvenez quand même de cette phrase du même Emmanuel Macron avant la Coupe du Monde au Qatar, le sport ne doit surtout pas être politique, voilà, tout ça ne voilà, bon, je referme la parenthèse, mais Benjamin Morel...
Le sport est toujours politique, évidemment que le sport est
évidemment
politique.
Évidemment qu'il l'était, il était aussi au moment de la Coupe du Monde.
C'est qu'on veut le politiser d'une autre façon, donc évidemment que c'est politique, et évidemment que les exécutifs cherche cherchent là-dessus, eh bien, à se refaire une santé, à construire des projets derrière. Ça ne fonctionne pas. En règle générale, vous avez des cotes de popularité qui ne bougent pas vraiment sur le long terme et vous avez des problèmes sociaux qui ne sont pas non plus réglés sur le long terme.
La victoire de 98, Coupe du Monde, c'est pas un booster en termes d'opinion, c'est très temporaire.
Je vous rappelle ce qui s'est passé 4 ans plus tard au niveau électoral. De l'autre côté, la dernière victoire à la Coupe du Monde, Emmanuel Macron en a profité quelques jours, ensuite on a eu l'affaire Benalla. Exact. Donc vous voyez que politiquement, entre guillemets, on a des phénomènes qui peuvent être des phénomènes d'unité temporaire. Ça permet en effet de construire une forme de catharsis national, social, etc. Malheureusement, ça reste extrêmement temporaire.
France Info, les informés, Bérangère Bonte.
Yannick Halimi est là, Benjamin Morel, politologue, Elisabeth Pinault pour Reuters et Sylvain Kahn, enseignant-chercheur au Centre d'Histoire à Sciences Po et spécialiste des questions européennes, qui est notre expert sur cette grande page européenne. Alors, on vote donc dans un mois pile. On est le 9 mai, c'est le 9 juin. On va rappeler qu'il n'y a qu'un tour pour les européennes, c'est important. Et les derniers sondages donnent la liste Bardella à 31 ou 32% et la majorité, la liste est entre 15 et 17%, talonnée selon certains instituts par la liste PS Place Publique de Raphaël Glucksmann. Talonnée, alors il y a un 15-14, il y a un 17-13, mais tout ça, en clair, est assez net sur, en tout cas, sur le premier et le deuxième. On parlera de tout ça. En France, les membres du gouvernement étaient priés de se montrer en ce 9 mai, qui est aussi la journée donc de l'Europe. Gabriel Attal, qui était dans le Morbihan, dans une crêperie, la Gavotte à Rouen, échange avec une quinzaine de Français. On va l'entendre, il accuse une nouvelle fois le RN de vouloir sortir de l'Union européenne.
Mais on sait que le débat de cette élection, c'est dedans ou dehors. Est-ce qu'on veut continuer à rester dans l'Union européenne, bénéficier de tout ce que l'Europe nous apporte, ou est-ce qu'on veut sortir de l'Union européenne? Parce que malheureusement, le programme du Rassemblement national, quand vous le lisez ligne à ligne, c'est l'organisation méthodique de la sortie de la France de l'Union européenne. Ils disent qu'ils veulent arrêter de respecter les règles européennes. Ils disent qu'ils veulent qu'on arrête de financer l'Union européenne. Est-ce que vous connaissez une association où vous ne respectez pas les règles, vous ne payez plus la cotisation, mais vous restez membre? Ça n'existe pas. Et donc le programme du Rassemblement national, c'est à la fin la sortie de la France de l'Union européenne, ce qui serait terrible pour les Français, mais aussi terrible pour l'Europe.
Je vais poser la même question à Benjamin Morel et à Sylvain Kahn. C'est ça le débat, dedans ou dehors, Benjamin Morel?
Non, pas vraiment. Alors, il y a un débat aujourd'hui sur quel est le degré de participation de la France au sein de l'Union européenne, notamment à travers des stratégies de désobéissance, d'opt-out, mais le RN n'est pas le seul parti à porter aujourd'hui ce type de stratégie. Donc on voit qu'aujourd'hui, la ligne, on dit beaucoup, aucun grand parti aujourd'hui ne prône le Frexit, c'est vrai, mais la plupart des partis prônent malgré tout, plus officiellement,
les patriotes.
Mais oui, sauf des Philippot, l'UPR, etc., des petits partis souverainistes, mais parmi les grands partis, plus personne ne le prône. Néanmoins, eh bien, vous avez des gradations d'euroscepticisme. LR, par exemple, est beaucoup plus eurosceptique qu'il ne pouvait l'être naguère. Idem pour d'autres partis de gauche. Donc on voit que l'évolution, entre guillemets, du paysage politique est beaucoup plus complexe, mais il faut comprendre la stratégie. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème de Valérie Ayé? Le problème de Valérie Ayé, c'est que les électeurs d'Emmanuel Macron en 2022 ne sont pas là. À peu près 1 sur 2 veut se déplacer, c'est pas normal. C'est des électeurs centristes, centre-ville, plutôt âgés, etc. Ces électeurs sont là, normalement, aux élections. Là, une grande partie ne veut pas se déplacer. Donc, le problème, c'est comment est-ce qu'on pourrait les faire venir aux urnes? Et donc, il faut dramatiser l'enjeu. Il faut donner le sentiment que c'est pas seulement des élections européennes, un tour à la proportionnelle, etc., et au final, des évolutions au sein du Parlement européen qui seront importantes, mais qui ne conduiront probablement pas à des grands chamboulements, mais que au contraire, c'est un choix extrêmement important pour ou contre l'Europe. C'est un choix important pour ou contre une politique pro-Poutine, etc. Cette exacerbation des tensions a pour but une mobilisation électorale. Le problème, c'est que depuis un mois et demi, cette stratégie-là est appuyée. Depuis un mois et demi, pour l'instant, elle ne marche pas.
On va échanger sur cette stratégie, effectivement, et cette dramatisation. Je vais poser la même question à Sylvain Kahn. Au niveau européen, si on dézoome, est-ce que ça existe encore dans le débat? C'est vrai qu'en France, le débat n'était plus là, dedans ou dehors. Est-ce que c'est le débat au niveau européen?
Pas vraiment. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a considérablement changé avec le Brexit. C'est-à-dire que les partis prenaient la sortie soit de l'Europe, soit de l'euro. Prenons l'exemple de Meloni, par exemple, et de son parti Fratelli d'Italia. Prenons l'exemple de la Ligue, qui est aussi un parti italien. Tous ces partis-là, depuis le Brexit, en fait, ils ont cessé, en effet, de mettre dans leur programme soit la sortie de l'euro, soit la sortie de l'Europe, pour bon, ben, finalement, c'est quand même mieux de rester, mais on va changer un certain nombre de choses de l'intérieur. Bon, c'est d'ailleurs exactement ce que dit le Front National, hein, c'est-à-dire que même en France, c'est quand même très très difficile de trouver des déclarations publiques, en tous les cas, quand on prend tous les débats qui ont lieu quand même depuis un mois maintenant sur à peu près tous les médias, ou même quand on prend les grands entretiens qui sont réalisés partout avec toutes les têtes de liste le vendredi matin, c'est assez difficile de prendre tel ou tel candidat en situation de dire qu'il veut détricoter l'Union européenne de l'intérieur. Voilà. Donc aujourd'hui, on est plutôt, me semble-t-il, à l'échelle de l'Europe, dans des discours en tous les cas. Hein. Et ce que dit Gabriel Attal, c'est que lui, il suppose que derrière les discours, il y a autre chose. Et dans les discours qui sont affichés, on est plutôt entre ceux qui disent que l'Europe est vraiment la solution, et ceux qui disent qu'elle est en partie la solution et en partie le problème, et ceux qui disent, mais ils sont devenus très minoritaires, qu'elle n'est que le problème. Mmh. Et quand on regarde d'ailleurs, je pense à la dernière grande enquête qui a été faite par la Fondation Jean Jaurès, Ipsos, l'Institut Montaigne et Le Monde, si je ne m'abuse, on voit bien que la sortie de l'Europe ou la sortie de l'euro est devenue vraiment une motivation extrêmement minoritaire, quelles que soient les préférences de vote. Voilà. Et à l'échelle de l'Europe, aujourd'hui, c'est un peu ce qui se passe partout. Donc c'est plutôt l'idée que certains partis qu'on va appeler eurosceptiques et qu'on ne va plus qualifier d'europhobes, au sens où europhobe voulait dire sortie de l'Europe, c'est plutôt que certains partis disent soit il faut pas trop faire de choses à l'échelle européenne, il faut quand même laisser au gouvernement une certaine marge de manœuvre, soit il faut s'emparer de l'échelle européenne pour faire des politiques que traditionnellement on qualifie de radical ou d'extrême droite, notamment sur l'immigration.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que le RN lui-même, dramatisation pour dramatisation, à un mois du scrutin, forcément, les mots sont de plus en plus surlignés. On va écouter, ça date d'il y a deux jours, mais Jordan Bardella à Saint-Avold, en Moselle, qui accuse le gouvernement, alors là où le Gabriel Attal accuse le RN de vouloir éteindre l'Europe, en gros, lui, il accuse le gouvernement de vouloir éteindre la voix de la France.
En éteignant la voix de la France, en déléguant à Bruxelles des compétences nationales, Emmanuel Macron cherche en fait, et sans le dire clairement, à liquider la souveraineté française.
Voilà, on dramatise des deux côtés, mais
ça c'est normal.
Elisabeth Pinault, oui.
Oui, on s'approche de l'échéance. Tout le monde sait que rien n'est décidé à un mois et demi. À trois semaines, ça commence à devenir très important, et la dernière semaine, c'est crucial. Bon, les argumentaires ont changé, je trouve, depuis le début de la campagne. Au départ, Jordan Bardella, que j'ai pas mal suivi aussi, disait, voilà, ce sera un référendum sur l'immigration et sur le déclin de la France. Et puis en face, on avait le camp Macron qui disait, c'est l'Ukraine qui va donner le la de ces élections. Maintenant, on entend bien ce qu'a dit Gabriel Attal, qui rejoint ce que disait le président de la République dans la tribune le week-end dernier. Le Rassemblement National, c'est la sortie de l'Europe, la sortie de l'euro. Il ne veut plus le faire, mais au fond, ça revient à cela, voilà. On voit un changement d'argumentaire. Et puis, chaque camp commence à aiguiser ses arguments. Mmh. On voit bien Raphaël Glucksmann qui parle beaucoup d'Europe, qui est assez crédible, qui porte les espoirs de la gauche, qui a beaucoup parlé lors de la visite de Xi Jinping au début de la semaine. Voilà, il a critiqué la réception que lui a faite Emmanuel Macron. On a aussi, bien sûr, Marion Maréchal qui joue le côté lutte contre l'islamisme. On a la France Insoumise qui, évidemment, essaie de mobiliser son électorat qui d'habitude est très abstentionniste et qui joue beaucoup sur ce qui se passe à Gaza. Voilà, chaque camp maintenant, on voit bien, aiguise ses arguments et ça va aller crescendo, je pense, d'ici le 9 juin.
Bon, Jeannick Halimi, je reviens vers vous après le point sur l'info, mais c'est intéressant de s'interroger sur l'efficacité de déplacer comme ça, je reviens aux déclarations de Gabriel Attal, mais de finalement installer un débat qui n'est peut-être pas le bon.
Je note dans ce que vous avez dit, enfin, vous avez donné les derniers sondages, ouais, que le grand discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne n'a pas fait bouger les lignes.
On en parle après le point sur l'info.
Les informés. Bérangère Bonte.
Elisabeth Pinault est là pour l'agence Reuters. Yannick Halimi, l'éditorialiste politique. Benjamin Morel, politologue, maître de conférence en droit public à Paris 2. Panthéon Assas. Et Sylvain Kahn, enseignant-chercheur au Centre d'Histoire à Sciences Po. Alors, on revient à notre débat européen, finalement, de l'Italie aux Européennes. Il n'y a qu'un pas. On parlera d'ailleurs de Giorgia Meloni dans un instant. Mais juste, Yannick Halimi, sur cette stratégie de Gabriel Attal qui évoque l'hypothèse d'un Frexit dont on pensait qu'elle était plus dans le débat. Pourquoi il fait ça?
Mais oui,
qu'il prend pas un risque quand même.
Je sais même pas s'il pense prendre un risque. Je pense qu'il fait une erreur. On le dit tous et Sylvain Kahn le dit aussi. C'est une erreur. Pourquoi? Parce que et comme le dit Sylvain Kahn, qui a été d'ailleurs un des premiers experts à le souligner en France, le problème de l'Europe aujourd'hui, c'est plus les Brexit ou les multiplications à venir des Brexit. C'est une transformation de l'intérieur de l'Europe à la façon hongroise de Viktor Orban, qui veut changer, qui est eurosceptique, qui veut changer les institutions européennes et changer les institutions de son pays. Et le danger, et c'est là pourquoi la stratégie d'Emmanuel Macron et de Gabriel Attal ne fait pas avancer Renaissance et la liste de Valérie Ayer d'une once, c'est parce qu'ils se trompent. Le problème, je ne fais que répéter ce qui a été dit par mes collègues et par Sylvain Kahn, ce n'est pas être dehors ou être dedans, c'est être dedans, mais à la façon de Viktor Orban, c'est-à-dire en transformant une Europe vers une Europe illibérale, qui est quand même peut-être aussi le projet du Rassemblement National. Rassemblement National qui se trouve au sein du Parlement européen dans le même groupe que Viktor Orban. Sylvain, vous me corrigez si je dis une bêtise, qui est indépendance et idées et indépendance. Bref, dans le même groupe.
Et démocratie.
Et démocratie, voilà, exactement. Et c'est là que le problème.
Ces groupes-là, il y a deux groupes.
Il y a deux groupes. Il y a selon qu'on dise en anglais, il y a CER, où se trouve monsieur, madame Meloni et Reconquête. Absolument. Et il y a l'autre groupe, ID, où se trouve donc notamment Viktor Orban, et qui a été un temps écarté du groupe, mais qui à l'origine était.
Voilà. Sylvain Kahn.
Mais donc, pardon, je termine. Le problème, la stratégie donc de Gabriel Attal n'est pas la bonne, parce qu'encore une fois, il se trompe d'analyse de, en tout cas, à l'instant T, parce que je pense qu'il est totalement conscient du risque que porte Viktor Orban au sein de l'Union européenne, mais il se trompe en vouloir caricaturer la position de Marine Le Pen, qui en plus n'est plus celle de sortir, mais bien de rester et de transformer à l'intérieur l'Union européenne. Juste pour terminer, la stratégie en revanche de M. Bardella et de Marine Le Pen est la bonne. Pourquoi ? Parce que c'est pas tellement la souveraineté, ou c'est l'anti-Macron. Il l'a dit dès le début de la campagne, M. Bardella, Jordan Bardella, c'est de faire des campagnes des élections européennes un référendum anti-Macron. Et là, on peut penser ce qu'on veut d'Emmanuel Macron, mais il est là, il est au pouvoir depuis 7 ans. Il est la cible en plus de tous les autres partis en France. C'est plus simple, et on prend pas de risque en tout cas, de viser le bilan d'Emmanuel Macron. On en pense ce qu'on veut, mais évidemment qu'au bout de 7 ans, il a fait des erreurs, voire des fautes. Et là, la stratégie de Jordan Bardella est beaucoup plus payante que celle de, non pas de Gabriel Attal, mais de Valérie Ayer, qui n'a plus que, effectivement, possibilité pour rattraper un tout petit peu le retard, c'est que Gabriel Attal, qui a une notoriété, une popularité beaucoup plus forte que Valérie Ayer, bah, se lance véritablement pendant les 3 semaines ou un mois qui reste de la campagne.
On commence à entendre d'ailleurs certaines voix, d'ailleurs depuis le début, qui considèrent que Gabriel Attal aurait dû porter la liste lui-même. C'est votre avis, Benjamin Morel?
Oui, en grande partie, encore une fois. Il faut bien comprendre que...
Est-ce que ça aurait changé?
Pourquoi est-ce qu'il a été nommé Gabriel Attal? À l'origine, changer de Premier ministre à la charnière entre 2023 et 2024 n'est pas tout à fait évident, sauf si vous considérez qu'il ne faut surtout pas perdre les européennes. Parce que si vous perdez les européennes, on rentre dans les canards boiteux d'un point de vue politique. Mmh. Donc on envoie un Premier ministre avec une majorité à l'époque cassée qu'on ne cherche pas à raccommoder. Hein. Souvenez-vous, pas de ministre de centre-gauche au sein du gouvernement,
etc. C'est pas raccommodable,
etc.
Si, de toute façon.
On pouvait mettre plus de ministres de centre-gauche au sein du gouvernement et puis éviter d'aller chercher Rachida Dati, ce qui a fâché un peu plus les LR. Donc on brise son sabre pour
Rachida Dati,
gouverner.
On n'entend pas d'ailleurs. Hein,
Exactement.
Qui a oublié qu'elle était dans un gouvernement.
Et on envoie un pro de la com. Et ce pro de la com, il a pour but justement de mener campagne. Que cette bataille soit menée. Or là, ce n'est pas vraiment le cas. Encore une fois, il faut comprendre quelque chose. lors d'une élection européenne, il y a beaucoup d'abstention. Celui qui l'emporte n'est donc pas celui qui a le plus large électorat. Mmh. C'est celui qui arrive le mieux à mobiliser sa base électorale. L'avantage de Bardella, c'est qu'il arrive à mobiliser sa base électorale. La base électorale macroniste, elle, ne l'est pas. Donc, en effet, sur le fond, c'est absurde de dire le RN va lancer un Frexit. Néanmoins, si vous considérez qu'une partie de votre base électorale est âgée, si vous considérez que cette base électorale a peur d'un Frexit et que pendant des années, c'est l'un des points qui a fait que jamais elle n'aurait voulu voir le RN au pouvoir, appuyer sur ce point, même si vous savez que c'est idiot, c'est l'espoir que cette base électorale se remobilise. Le problème, encore une fois, c'est que pour l'instant, ça ne marche pas. Et puis que surtout, cette base électorale a aussi changé. Quand vous prenez les enquêtes, aujourd'hui, le RN mord aussi sur l'électorat âgé. Oui.
C'est faux. Encore une fois, le Rassemblement national ne prône plus la sortie de l'UE.
Sylvain Kahn, exercice difficile pour vous. Quand on dit la poussée probable des nationalistes et des populistes, comment on peut faire une photographie pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent il y a le journal Le Monde qui fait un passionnant tableau avec les 13 têtes d'affiche. Alors c'est plus facile, mais comment vous feriez cette photographie, vous, de cette poussée à quoi vous serez attentif et à quoi faut-il que nous soyons attentifs?
C'est une élection parlementaire, hein, donc là-dessus, mobilisons nos bonnes habitudes de citoyens, de commentateurs qui aimons la vie politique. Donc, dans une élection parlementaire, ce qu'on regarde, c'est la famille politique dont vous parlez, qu'on va appeler l'extrême droite et la droite radicale. Combien elle occupe aujourd'hui de pourcentage de sièges dans le Parlement actuel? 20%. Un tout petit peu moins de 20%. D'après les projections qu'on suit depuis maintenant plusieurs mois, il est probable, encore une fois, dans les projections, ça peut changer le jour du scrutin, que la famille des droites extrêmes et radicales atteigne 25% des sièges au mieux. Voilà. Donc on passerait de 1/5 à 1/4. Donc ça, c'est premier élément de réponse.
En additionnant les deux fameux groupes, hein, on est d'accord.
En additionnant les deux fameux groupes. Mmh. Et justement, deuxième élément de réponse, les deux fameux groupes, donc je rappelle l'un qui s'appelle I et D pour Identité et Démocratie et l'autre qui s'appelle en français CRE pour Conservateurs et Réformistes Européens, ne s'entendent pas politiquement. Ils ont des valeurs communes, mais ils ont également des comportements et des traditions différents, notamment parce que le groupe IED, dans lequel il y a par exemple le Rassemblement National, ne travaille pas. Hein. Ça a été rappelé à plusieurs reprises dans tous les débats. Monsieur Bardella, par exemple, s'illustre par le fait qu'il est, c'est documenté par des statistiques, assez peu présent au Parlement européen.
Et voilà, fournit assez peu d'amendements, etc.
Voilà, tandis que les élus du groupe CRE, pour la France, il y en a très très peu, il y a juste un député Reconquête, sont au contraire des députés de droite radicale qui cherchent à s'insérer dans le travail parlementaire et à peser sur les textes. Bon, mais donc, en tous les cas, quand je vous dis qu'il passerait de 20% à 25%, sauf que de toute façon, il y a deux groupes qui sont à peu près d'un poids égal, et qui ne travaillent pas ensemble et ne s'entendent pas.
Additionner les deux n'a pas beaucoup de sens, c'est ça que vous voulez dire?
Ça a du sens pour dire, ou pour apprécier le fait que, en termes d'idéologie, on aurait une droitisation ou une extrême droitisation du Parlement européen, dans la limite d'un quart des sièges, mais ça n'aurait pas de sens par rapport à une future majorité parlementaire, si vous voulez. Voilà. Et donc, pour terminer, de toute façon, dans les projections actuelles, mais encore une fois, elles sont assez stables depuis plusieurs mois, puisque vous voyez bien, hein, pour que ça soit clair pour les auditeurs et les téléspectateurs, il faut agréger les sondages et les projections qu'on fait dans 27 pays. Hein, donc, c'est pas très facile, mais il y a des sites qui font ça très très bien, comme Europe Elect. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est très probable que la majorité parlementaire, hein, pour faire voter des textes, hein, ça soit à nouveau dans le futur Parlement comme dans le Parlement actuel, la droite parlementaire classique, démocrate chrétienne, conservatrice, qu'on appelle PPE, Parti Populaire Européen, le Parti Socialiste Européen, plus les centristes libéraux de type Renew. Voilà, donc les grands équilibres, si vous voulez, ne vont pas fondamentalement changer.
La fusion des deux groupes, donc de nationalistes, on va dire d'extrême droite, ne se fera pas, mais c'est vrai que ce bloc s'il augmente, peut changer la donne sur pas mal de textes.
En fait, oui, absolument, ça peut empêcher le vote de certains textes. Bon, cette fusion a été envisagée longtemps, mais ça semble impossible aujourd'hui, notamment parce que Giorgia Meloni, qui veut être la chef de la droite conservatrice en Europe, ce n'est pas dans son intérêt. Elle veut être la personne importante. Et donc, voilà, il faut penser plus large. Il ne faut pas penser seulement France, référendum anti-Macron, enfin pour ou contre Emmanuel Macron. C'est bien sûr au niveau européen, au niveau de ces groupes européens, que tout va se jouer.
Benjamin Morel.
Oui, alors d'un point de vue institutionnel, je rappelle que le monopole législatif dans l'Union européenne, c'est la Commission. Hein, et que la Commission va quand même beaucoup dépendre de ce que voudront les chefs d'État et de gouvernement, même s'il y a une validation par le Parlement européen. Qu'ensuite, la Commission a quasiment un droit de veto sur les amendements qui sont soumis au Parlement européen.
Mais la Commission elle-même dépendra aussi de ce qui se discute.
Elle est soutenue, il faut qu'il y ait un vote au Parlement européen sur les commissaires. Ensuite, il y a certes le Parlement européen, dans lequel, là je suis d'accord avec ce qui a été dit, il n'y a pas vraiment de majorité alternative à celle qui existe aujourd'hui, mais il peut quand même y avoir des basculements, c'est-à-dire qu'on peut avoir des alliances sur certains textes, notamment avec le CR, et là, entre le PPE, etc., il peut y avoir des variations, mais ensuite il faut l'aval du Conseil, hein, c'est-à-dire là où siègent les ministres. Et ce Conseil a une influence extrêmement importante. Donc il faut bien comprendre, et c'est toute la difficulté, on parlait tout à l'heure de mobilisation, mais c'est toute la difficulté, entre guillemets, de faire le lien entre des enjeux de l'élection qui sont à la fois transnationaux et limités à l'une des institutions européennes qui n'est pas la plus forte, et de l'autre, eh bien, faire campagne sur des sujets politiques très concernants, ce qui est un enfer pour les partis.
Mais c'est là où les uns et les autres jouent un jeu dangereux en nationalisant le scrutin, parce que certes c'est compliqué, mais sans doute qu'il faut s'atteler à cette complexité.
On espère que ça va, on va parler d'Europe pendant les 4 semaines qui restent.
Je ne suis pas sûre que ce soit un jeu dangereux. Pourquoi? Moi, je connais plus le Rassemblement National que les autres partis comparables dans les autres pays européens. Encore une fois, c'est un jeu dangereux si la stratégie de nationaliser, en l'occurrence pour Jordan Bardella, de tirer à vue sur Emmanuel Macron et son bilan, était une stratégie qui le poussait à l'échec. C'est pas le cas. Je pense que c'est la bonne stratégie. Donc, s'il y a un risque, évidemment, il y a toujours un risque, il est limité. De toute façon, on ne va pas le voir dégringoler, sauf extraordinaire et coup de théâtre historique. Même si M. Attal arrive à grappiller quelques points, le Rassemblement National restera autour, on va dire, de 30%. Il va remporter l'élection en France, avec peut-être d'autres conséquences sur les élections à venir dans les 2 ou 3 années qui viennent. Mais juste quand même, je voulais dire quelque chose très vite sur l'Europe. Je ne pense pas que ce soit ça que voulait dire Sylvain Kahn, mais je veux dire par là que cette poussée de la droite et de l'extrême droite ou des droites extrêmes au Parlement, bien sûr qu'il n'y aura pas de basculement, enfin encore une fois, sauf coup de théâtre pour le coup. Les partis d'extrême droite, que ce soit la CRE et l'ID, même s'ils fusionnaient, ne vont pas entraîner un basculement, un changement de couleur de l'Assemblée, du Parlement européen. Mais il faut bien voir, en revanche, que la droitisation donne énormément d'espoir au PPE, mais que le PPE va avoir quand même de plus en plus de mal à avoir une majorité qui lui permette de faire passer des textes rien qu'avec eux ou avec le groupe pivot que représente aujourd'hui Renaissance et donc Renew. Je veux dire par là que s'il y a un PPE qui a quand même la majorité relative, mais avec des partis d'extrême droite qui montent, eh bien, la couleur du Parlement, et pas seulement sur des textes touchant l'immigration ou la sécurité, le PPE va devoir s'appuyer de plus en plus sur ces partis d'extrême droite. Et croyez-moi, l'Union européenne ne sera plus l'Union européenne qu'on a connue depuis sa création et depuis l'élection du Parlement européen. Juste un dernier point, vous parliez, Benjamin Morel, de la Commission. Oui, c'est vrai, mais la Commission, qui a un rôle en soi, et je ne parle même pas du Conseil, la Commission, on voit Mme von der Leyen qui est en course pour également ce poste de commissaire.
Elle n'est plus gagnée, contrairement à ce qu'on a...
On ne sait pas, voilà. Mais en tout cas, elle s'est déjà appuyée et elle a déjà tendu la main au parti de Mme Meoli, à la CRE, pour faire passer certains textes, notamment, je ne crois pas me tromper, le pacte, sous réserve, mais le pacte écologie. Donc on voit déjà des figures du PPE, et pas n'importe lesquelles, puisque c'est quand même la commissaire, qui commence à tendre la main au groupe d'extrême droite du Parlement européen. Donc attention, l'élection qui vient, que ce soit au plan national avec ses conséquences au plan européen, est extrêmement importante parce qu'il va avoir un rôle de plus en plus central, certes pas majoritaire, mais un rôle pivot et central des groupes d'extrême droite au sein de l'Union européenne, d'extrême droite au sein de l'Union européenne.
Juste pour clore notre grande page européenne, et on y reviendra évidemment, mais Sylvain Kahn, quand Jannick Halimi parle vous parlez du Green Deal, ça fait partie des enjeux, c'est-à-dire des textes qui peuvent être remis en question selon le résultat du scrutin du 9 juin.
Mais il l'est déjà. Le Green Deal, un des gros enjeux effectivement du futur Parlement européen, c'est le Green Deal stop ou encore. Parce que en effet, depuis plusieurs mois, le PPE, donc qui correspond à LR pour la France, a levé le pied, voire mis le pied sur le frein du pacte vert dans l'Assemblée de Strasbourg et de Bruxelles. Parce que, mais ça, c'est pas tant parce que la droite radicale est extrême monde que parce que il y a eu un grand mouvement social des agriculteurs. Mais je voudrais dire, par rapport à tout ce qui a été dit, juste, je suis complètement d'accord, mais nuancer un tout petit peu. Hein, c'est-à-dire que si vous additionnez le nombre de sièges du PPE et du groupe Meloni, c'est-à-dire ECR, et probablement qui va être rejoint par Orban, le Fidesz, vous êtes très très loin d'avoir 50% des sièges. C'est-à-dire que, encore une fois, il n'y a pas de majorité alternative pour voter des textes à une alliance droite, plus gauche, plus centre, c'est-à-dire quelque chose qui... Donc, à mon avis, le risque le plus important, puisque là, c'est un peu ce qu'on cherche à faire, c'est que sur certains textes, effectivement, il y a une droitisation de leur rédaction, mais que sur beaucoup d'autres textes, il n'y ait pas de majorité de compromis possible. Donc on irait plutôt, à mon avis, vers une absence de prise de décision du Parlement européen que vers, disons, une majorité alternative. Mais encore une fois, c'est un risque qui est, comment dire, un peu limité. Quant à la Commission, il faut bien voir que c'est tout à fait juste ce qui a été dit tout à l'heure, que la Commission va avoir un rôle éminent.
Vraiment d'un mot.
Et que donc d'un mot, c'est chaque gouvernement qui nomme un commissaire. Et celui-ci doit ensuite être validé par le Parlement européen. Et donc, dans l'état actuel des choses, il y a peu de gouvernements dans l'état actuel des choses où la droite radicale et extrême dirige le gouvernement.
Merci
donc,
beaucoup.
On va avoir une commission un peu plus droitisée, mais pas énormément.
Les informés, Bérangère Bonte.
Non, ça n'est pas l'hymne olympique. C'était Taylor Swift, évidemment. Fortnite, c'est issu du dernier album. Elle est en duo là avec Post Malone, le chanteur américain. Alors, je ne sais pas si vous êtes passé à côté de la Défense Arena ces derniers jours, mais ils étaient là avec les costumes pailletés, les lunettes cœur, les tentes, les fans de Taylor Swift qui avaient leurs billets. Hein. C'était même pas pour acheter des billets, mais c'était pour être sûr d'être bien placé dans le concert. Début donc de 4 dates parisiennes et 2 début juin à Lyon. On dit qu'il y a un effet Taylor Swift sur l'économie des pays où elle se produit. Écoutez ce qu'en dit le tourneur de Taylor Swift en France, Arnaud Mersman.
C'est quand même une artiste un peu hors norme. On a vendu quasiment 250 000 tickets entre les 4 dates parisiennes et les 2 dates lyonnaises. On parle d'à peu près le staff local d'AEG, à peu près 300 personnes ou 350 personnes. Son staff à elle, la même chose. Donc ça fait beaucoup de monde et ça fait beaucoup de tickets.
Voilà, et enthousiasme tempéré par certains économistes. On entendait Sylvain Bersinger sur l'antenne qui disait mais ce qu'ils achètent là, ils l'achèteront pas ailleurs. Au final, Elisabeth Pinault, quel regard vous avez là-dessus?
Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le phénomène Taylor Swift et il faut s'intéresser au phénomène Taylor Swift. Sa musique, est-ce qu'elle est? On s'y intéresse ou pas? En tout cas, elle, c'est une femme puissante, un exemple pour toute une jeunesse qui apprend l'anglais avec ses chansons, qui dort sous la tente avant ses concerts. C'est une femme puissante, c'est la première milliardaire auteur, compositeur, productrice qui a dit au revoir à sa maison de disques, qui passe des messages politiques. On sait qu'elle a appelé les jeunes Américains à s'inscrire sur les listes électorale, ce qui peut avoir vraiment son importance.
Et beaucoup l'ont fait.
Et beaucoup l'ont fait.
Ça a eu un
et
effet,
on sait qu'elle a soutenu par le passé Joe Biden. Elle n'a rien dit pour la prochaine élection, mais en tout cas, c'est une femme puissante et il faut la suivre et puis s'intéresser à la jeunesse qui la suit parce qu'elle représente beaucoup de choses. On voit la jeune fille en boutique pailletée avec les bottes assorties, mais c'est beaucoup plus que ça. Elle rappelle une Beyoncé, elle rappelle ces femmes puissantes et très indépendantes.
Est-ce qu'il n'y a pas toujours quelque chose d'un peu gênant quand même de dire c'est beaucoup plus que ça, mais donc du coup, c'est plus de musiciennes. Enfin, honnêtement, la country, je ne sais pas si vous aimez, mais en France,
elle a beaucoup évolué.
C'est quand même étonnant, ce phénomène. Et on oublie qu'elle est musicienne, puisque là, j'entends que le personnage est intéressant. Mais...
Oui, absolument.
Qu'est-ce alors, qui vous intéresse,
justement, c'est une anti, entre guillemets, Beyoncé, parce qu'elle incarne quand même Madame Swift, Taylor Swift, le retour à une Amérique blanche, même si Taylor Swift ne s'inscrit pas du tout dans une ligne, et au contraire, Trumpiste de l'homme blanc au-dessus de tout le monde. Donc, contrairement à toutes les stars, et quelles stars, hein, à part Madonna, mais les dernières, comme Rihanna, ou faut que je lise mes listes, parce que ou Beyoncé, c'est quand même quelqu'un, encore une fois, l'américaine blanche qui a défendu, en tout cas qui a incarné la country, qui est la musique presque folklorique au sens anglais et américain du terme, et qui a évolué effectivement vers le... Moi, je pense que de toute façon, si phénomène il y a, il existe aujourd'hui, il date depuis quelques années, plusieurs années aux États-Unis, découvert en France depuis peu, hein, pour X raisons, premièrement. Deuxièmement, si elle fait, c'est là où je réponds à votre question, si elle fait vraiment de la bonne musique, elle deviendra une grande artiste et non pas un phénomène sociologique ou sociologico-politique.
Non, mais le phénomène, il existe, là, ça y est, économique.
Non, mais pour économique, oui, juste, je lisais un truc, selon le magazine économique Fortune, américain, une tournée de Taylor Swift injecterait 4,6 milliards de dollars dans l'économie américaine, avec toutes les retombées multiples. C'est le magazine Fortune qui cite ce chiffre-là. Donc pour vous répondre à votre question, c'est un phénomène qui effectivement transcende la musique, mais si la musique est bonne,
joli.
On verra les conséquences.
On change de registre. Là-bas, si la le mot de la fin.
Non, en deux mots, oui, il faut qu'elle fasse beaucoup de tournées en France, du coup, si on veut redoper la croissance.
Elle fait peur au Trumpisme, mais elle a pas de raison de faire peur à quiconque.
Non, mais c'est l'icône d'une génération, etc. C'est pas la première fois qu'on assiste à ça. Et en effet, vous avez une musique et d'un côté un personnage, les deux se coordonnent. Ensuite, ça donne une responsabilité à l'artiste, parce que quoi qu'on en pense, l'artiste a une voix qui est une voix prescriptive pour beaucoup, et elle ne fait pas n'importe quoi aujourd'hui de la voix qu'est la sienne. On peut s'en réjouir.
Merci à tous les trois. Les informés demain à 9h, Jean-Rémy Baudot et Benjamin Sportouche. Nous, on sera là à 20h.